Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'aujourd'hui nous sommes très nombreux et c'est une joie non seulement pour moi mais pour le Seigneur. Je veux que vous imaginez, vous êtes assis sur des bancs rembourrés qui sont confortables et je vais vous ramener 6 siècles en arrière qui nous ramène au 13e siècle. Alors nous sommes à la fin justement du 13e siècle. Et la population du Royaume de France a atteint 15 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé d'Europe. Alors, pour souvenir aux besoins de la population paysanne, entre autres les céréales, le blé, avoine, orge et tout ça, sont alors complétés par les légumes tels que pois, lentilles et par des produits tels que le chou. Et c'est justement à cette époque-là que la chanson intitulée « Savez-vous planter les choux ?» Nous avons tous chanté « Savez-vous planter les choux ?» à la mode, planter les choux. À la mode de chez nous, bon, on va continuer. Mais certainement, vous vous rappelez de cela. C'est ce qui m'a amené à l'idée que j'ai eu l'idée pour cette leçon aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire ce matin, j'aimerais aborder avec vous 3 points importants sous forme de questions. La première, écoutez bien. Sommes-nous les agriculteurs de Dieu ? Je répète, sommes-nous les agriculteurs de Dieu? Deuxième question, êtes-vous devenus des arbres de Dieu? Et troisième question, faites attention aux généticiens de la parole de Dieu. Alors, il est vrai que, vous allez peut-être dire, mais pourquoi il a choisi le chou, tout ça? C'est simple, cette semaine, j'étais au marché, je connaissais quelqu'un, il me dit, Roland, j'ai un très beau chou. Avant qu'il monte à 3 euros, je te le fais à toi pour 1 euro, tu le veux? Bon, je dis, ouais, pourquoi pas, et c'est pour ça. Bon, après, j'ai pensé à cette chanson. D'ailleurs, j'avais dit, tu sais, quand j'étais gosse, je me rappelais, on chantait cette chanson, « Savez-vous planter les choux ?» Et puis après, j'ai regardé la parole de Dieu, je me suis dit, attends, en fait, le chrétien, il est un semeur, il est un agriculteur de Dieu. Alors, il est vrai que le travail de l'agriculture consiste à semer l'évangile afin de produire des fruits, et selon le Seigneur, tout disciple est censé être un semeur de la bonne nouvelle du royaume et bien sûr porter les fruits. Alors nous avons des passages comme Matthieu chapitre 28, nous avons également chapitre 16, nous avons 2 Timothée, mais surtout dans Éphésiens chapitre 2 verset 10 que j'aime bien citer. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions dans elles. Donc, Dieu a préparé de nous un travail. Des agriculteurs, des semeurs. Semeurs de quoi? De la bonne parole de Dieu. Alors, cette semence, c'est quoi? C'est l'évangile qui nous a été annoncé et que nous avons accueilli et obéi. Ce n'est pas n'importe quelle semence, mais c'est celle de Dieu. Elle est unique. Et d'ailleurs, dans Luc chapitre 8, verset 11, lorsqu'on lui pose la question, il dit que c'est la parole de Dieu. Elle est celle de la vie. Non seulement elle est celle de la vie, mais elle est également celle de la résurrection, de la régénération et de la vie éternelle. Nous avons été régénérés lorsque nous avons obéi à l'évangile. Un nouveau départ, un nouvel commencement. Et finalement, cette semence, nous l'avons en nous. Ce n'est pas la nôtre, c'est celle de la vie éternelle. Et nous devons justement la semer. Rappelez-vous justement ce que Jésus dit dans Jean chapitre 15. Premièrement, il va nous dire, verset 5, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est vrai que nous ne pouvons rien faire. Parfois, on pense qu'on peut le faire, mais on ne l'est pas. Alors, de grâce, n'écoutez pas Roland, mais écoutez le message. Écoutez la parole. Quand quelqu'un vient devant ici prêcher, ce n'est pas l'homme que vous devez écouter, mais la parole qui transmet, qu'il était inspiré. Alors, dans Jean 15, comme je dis, il dit, vous ne pouvez rien faire sans lui, et... Non seulement ça, mais un peu plus loin, un verset plus loin dit que nous devons porter du fruit. Sinon, il va nous jeter feu et nous brûlerons. Ce n'est pas ce que nous voulons. Justement, c'est pour cette raison que Dieu nous demande d'être ses agriculteurs et de semer cette bonne parole de l'Évangile. Dans Matthieu 13, verset 38, il dit ceci. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Dans Matthieu 24, et verset 14, il nous dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, moi j'ai mis en parenthèse, sera semée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La fin va venir. Mais lorsque le Seigneur dit cette parole, lorsque je reviens, trouverai-je la foi? Parfois, ça fait réfléchir. Le monde est en train de périr, le monde est dans les ténèbres, et nous sommes les semeurs de Dieu. Est-ce que nous semons cette porte-parole? Mais pour pouvoir semer cette parole de Dieu, il faut qu'on soit devenu des arbres de Dieu. Il y a deux arbres dans la Bible qui sont souvent mentionnés, le cèdre du Liban et le palmier. Alors il est vrai qu'une fois que la parole de Dieu a été plantée en nous, nous sommes censés devenir des arbres spirituels. Je vais vous citer trois passages. Un passage que vous connaissez tous, le psaume 1er. Hier soir, lorsque nous étions réunis chez une sœur pour la réunion de prière, j'étais en train de me dire, ah, je dis au frère, il est en train de prendre mon passage. Ce n'est pas notre passage, c'est celui de Dieu. Il nous dit ceci dans son propre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oh, combien de fois nous avons suivi le conseil des méchants. Mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'en sert pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve quoi? Son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Et après, au verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Malheureusement, de moins en moins de chrétiens semblent trouver plaisir auprès de la parole de Dieu. Le passage qui a été lu tout à fait au départ, Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8, écoutez bien ce qu'il est dit. Jérémie, ce n'est pas le prophète qui est aimé par Israël. Les Israéliens disent, dégage, dégage, on ne veut pas t'entendre, on ne veut pas t'entendre, parce que tu es en train d'avancer, ça nous gêne. Et parfois la parole de Dieu gêne. Mais on ne doit pas s'arrêter de prêcher la bonne parole. Il dit ceci, mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours des fruits. Et le dernier passage en rapport avec l'arbre, c'est dans le psaume 92. Écoutez bien le psaume 92 et verset 12. Mais le fidèle pousse droit comme un palmier. Il s'étend comme un cèdre du Liban. Et j'aime bien ce qu'il va dire ensuite. Il est un arbre planté dans la cour du temple, dans le temple de Dieu. Il s'épanouit chez le Seigneur notre Dieu. Même en vieillissant, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève et de vie. Preuve vivante que le Seigneur est juste et sans détour, lui mon rocher. Alors, il est vrai qu'aux yeux de Dieu, celui qui obéit à tous ses commandements, c'est lui qui est fidèle. Et justement, Jésus va le dire dans Jean chapitre 14, verset 23-24, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. » Troisième point de ma leçon, faites attention aux généticiens de la parole. Alors, pour dire, mais qui sont-ils ces gens-là? Tout simplement des frères et des sœurs comme vous et moi, qui se donnent une certaine liberté d'interpréter, de changer, de modifier le sens de certaines passages de la parole à leur guise, ce qui semble agréable à leurs yeux. Très sincèrement, je ne pense pas qu'ils réalisent ce qu'ils font, ni l'impact et l'influence qu'ils ont sur certains croyants, je dirais même faibles dans la foi, autrement dit des bébés spirituels. Il est vrai que Paul va mentionner aux Corinthiens, je ne peux pas vous donner l'introduction, vous êtes encore des bébés spirituels. Et on doit apprendre d'abord le respect pour Dieu. Dans Proverbes chapitre 1, verset 7, il dit « La crainte de l'Éternel », mais le mot veut dire en hébreu « respect ». Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des personnes stupides. Oh oui, bien sûr, ils se donneront toute une foule d'adeptes qui les suivront dans leur raisonnement erroné. Il est vrai qu'il y a toujours eu des généticiens de la parole et il y aura toujours des généticiens de la vérité de Dieu. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous trouvons aujourd'hui avec plus de 40 000 églises différentes de par le monde, alors que le Seigneur, à travers ses enseignements, nous dit « Je bâtirai mon église au sein d'une seule église ». Éphésiens 4, verset 4, il n'y a qu'un seul corps, et le corps, c'est l'église, c'est nous. Mais tout d'abord, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que la génétique? Alors, ça vient d'un mot grec, « géno », qui veut dire « donner naissance à quelque chose de nouveau ». Mais le Seigneur dit « Il n'y a rien de nouveau sur cette terre ». Alors, vous avez entendu parler dans les années 90, OGM, organiquement modifié. On veut tout modifier. Alors, le généticien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui étudie, analyse les caractéristiques héréditaires des êtres vivants, micro-organismes, animaux, végétaux, et ainsi de suite. Mais pour donner naissance et modifier et changer les choses. Alors, le généticien, la parole, c'est quelqu'un qui veut changer les choses à sa guise. Si je regarde un petit peu le premier généticien, je dirais c'est Adam, qui n'a pas voulu se fier à ce que Dieu a demandé. Alors, il est vrai que dans l'Ancien Testament, ça a été le cas avec Israël. Je vous demanderai d'écouter bien ce passage, ou bien même de le lire pour vous-même. Il se trouve dans Ésaïe, chapitre 24, verset 5. Alors, justement, en parlant d'Israël, voici ce que nous dit le prophète Ésaïe. Car ils ont passé par-dessus les instructions du Seigneur. Vous voyez un petit peu, passé par-dessus les instructions du Seigneur, ils ont violé les règles. Ils ont rompu l'engagement qui les lie à Dieu pour toujours. Vous rendez compte, quand vous passez par-dessus, que vous modifiez la parole, eh bien, en fait, vous rompez l'alliance que vous avez prise avec Dieu et vous-même. Alors, il est vrai que même au début de l'Église naissante, primitive, nous avons des exemples, comme il le dit Paul dans Actes chapitre 20, il appelle les anciens d'Éphèse, et on va lire du verset 25 à 32. Écoutez bien ce qu'il va dire. « Et maintenant, je le sais, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le règne de Dieu, vous ne verrez plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un et parfois même avec larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. » Paul va également écrire à Galates. Galates chapitre 6, il va dire je m'étonne avec la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui que vous avez appelé, qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour tourner vers un autre message, comme s'il pouvait y avoir un autre message. Mais il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trou parmi vous et qui veulent renverser le message de Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonce notre message différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Un autre passage de Paul qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 6. Écoutez bien, je répète 2 Corinthiens 11, versets 3 à 6. Mais rappelez-vous, le serpent a trompé Ève par son mensonge. Alors j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses et que nous soyez plus fidèlement et sincèrement attachés à Christ comme avant. Par exemple, quelqu'un arrive, il vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons jamais annoncé. Ou bien vous recevez un autre esprit, un esprit que vous n'avez jamais reçu. Ou encore, on vous annonce une bonne nouvelle que vous n'avez jamais reçue non plus. Et vous supportez très bien cela. Pourtant, je pense que j'ai autant de valeur que vos espèces de grands apôtres. Et ça, je le prends pour moi. Je sais très bien. Je ne sais pas très bien parler. Mais pour la connaissance de Dieu, c'est autre chose. Nous avons toujours montré cela clairement dans tout ce que nous avons fait. Paul est en prison. Et ceci, voici ce qu'il va dire au jeune Timothée. Il a une lourde responsabilité à Éphèse. Il y a des premières églises. Il dit ceci. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui jugera les vivants et les morts, je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec instance. Que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif. Adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers les légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur. Mes frères et sœurs, une chose pour comprendre, que Dieu est immuable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie ce mot immuable? Simplement qu'il est inchangeable, invariable. Littéralement, qu'il est impossible de changer. D'ailleurs, le prophète Malachie nous le rappelle dans Malachie chapitre 3, verset 6. Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Jésus-Christ est également inhumable. En Hébreu chapitre 13, il dit ceci, je suis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand Pierre parle, il nous dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu, immuable. Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alors quand tout le reste sera consumé sur la planète, seule la parole de Dieu demeurera, subsistera, parce que la vérité de Dieu est éternelle. Alors, justement, comment savoir si les généticiens ont tempéré la parole de Dieu? Nous avons un très bon exemple avec les frères de Béré. En Actes chapitre 17, verset 11, il nous dit « Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de volonté. » Mais vous savez ce qu'ils faisaient? Il nous dit que chaque jour, ils étudiaient l'Écriture pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Pour terminer, j'ai deux petites conclusions. La première vient de moi. Écoutez bien ce que je veux dire. Un chrétien ne devrait jamais délaisser la parole de Dieu pour suivre ce qui est à la mode dans le monde religieux d'aujourd'hui. Je le répète, un chrétien ne devrait jamais délaisser la parole de Dieu pour suivre ce qui est à la mode dans le monde religieux aujourd'hui. Et deuxièmement, elle vient de Jean Hus. Jean Hus qui est monté brûlé sur le bûcher. Voici ce qu'il a dit. Je préfère les blesser avec la vérité que de les tuer avec les mensonges. Merci.